7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Olivier Poujade.
Bonsoir Nicolas.
On part en Turquie, Olivier, à quelques jours d'un référendum qui va peut-être faire basculer le destin du pays.
Référendum initié par le président en personne. Dimanche, les Turcs se prononceront sur une modification de la constitution qui pourrait faire de Recep Tayyip Erdogan un super président sans véritable contre-pouvoir. Difficile dans ce contexte de faire campagne contre cette réforme. Les opposants subissent régulièrement des pressions et disposent de très peu de moyens pour se faire entendre, ce qui ne les empêche pas de s'exprimer. C'est le cas de Selina Doğan, première femme arménienne élue au Parlement turc en 2015. Un profil atypique pour une députée qui n'a pas peur de défier Erdogan, comme a pu le constater Laura May Gaverio.
Je retrouve Selina Doğan auprès des Arméniens chrétiens d'Istanbul lors d'une réception de Pâques au très chic Hôtel Marriott. L'occasion pour les leaders de la communauté de faire passer quelques messages politiques. D'après elle, malgré la débauche de moyens télévisuels, l'AKP n'a pas fait campagne puisqu'ils n'ont développé aucun argument. Ils ont simplement mis en scène le président pour personnaliser le référendum.
Dans les médias, vous ne pouvez pas entendre pourquoi il faut dire oui. Donc leur campagne s'est basée sur la criminalisation de l'opposition. Et donc dans les rues, ils nous disent « vous êtes terroristes ». Toutes les députées de l'opposition ont été menacées. Donc il y a une atmosphère qui affirme cette discrimination et ces violations.
Vous l'avez compris, en Turquie, le climat politique est rude. Ici, le combat n'est pas une métaphore, on en vient parfois aux mains dans l'hémicycle. Comment Selina Doğan vit-elle le fait d'être une femme députée dans l'opposition, dans un parlement qui compte 89 représentantes sur 500 élus, émanation d'une société très misogyne?
Ça fait maintenant 15 ans que le AKP est en pouvoir. Ils ont un discours tout à fait discriminatoire. Ils affirment, je dirais, la violence contre la femme. Et en plus, si vous êtes arménien, c'est beaucoup plus dur parce que le mot arménien, c'est comme insulte.
En 2015, le président de son parti l'investit candidate à Istanbul pour commémorer les 100 ans du génocide arménien. Elle est élue en plein chaos politique, attentats et coups d'État inclus, une promotion qui n'avait rien d'un cadeau. Mais pour cette mère de famille super diplômée, plus qu'un mandat, il s'agit d'une mission historique, un sacerdoce.
La Turquie est divisée en deux. Il y a des gens qui ne veulent pas être voisins avec des gens qui votent pour un autre parti. Ils ne veulent pas que leurs enfants jouent ensemble. J'ai peur de ce langage hostile qui nous divise. Toutes ces polarisations, c'est à cause du rhétorique qui domine la Turquie.
Quels que soient les résultats de dimanche, Selina Doğan continuera d'être une voix de l'opposition, quels que soient les risques. Qu'ils viennent d'un pouvoir chaque jour plus autoritaire ou de groupuscules fascistes n'appréciant pas qu'une arménienne ose parler haut et fort, enfin, sur la scène publique turque.
Portrait de Selina Doğan, députée d'opposition au Parlement turc, signé Laura May Gaverio.
Et à 18h41, comme chaque mercredi, c'est la DER de Bruxelles qui nous tend les bras, Olivier.
Et c'est au Parlement européen que nous nous rendons ce soir pour retrouver, bien sûr, notre correspondant Quentin Dickinson. Bonsoir Quentin.
Bonsoir Nicolas, bonsoir Olivier et bonsoir à tous.
Vous revenez ce soir, Quentin, sur un sujet abordé hier lors d'une commission des affaires constitutionnelles au Parlement européen. Un véritable casse-tête. Que va-t-on faire des 73 sièges laissés vacants par les eurodéputés britanniques au printemps 2019? Qu'est-ce qu'on va en faire?
Oui, que faire de ces sièges, en effet? Cela fait partie de ces questions qui ont l'air toutes simples comme ça, mais que les comités d'experts et les eurodéputés ont le don de rendre parfaitement opaques. Vous dites sans doute qu'il n'y a que deux options. Ou bien on y renonce, et le Parlement européen du coup ne compte plus que 678 membres, ou alors on redistribue les 73 sièges en fonction de la population des 27 pays qui restent dans l'UE. Trop simple, visiblement, car certains élus estiment que renoncer, eh bien, c'est faire afficher une preuve d'économie, mais d'autres y voient au contraire un déni de démocratie. Alors, redistribuer. Là, les eurocrates se sont surpassés. Ils ont mis au point pas moins de 4 formules possibles, dont l'intitulé fait rêver. Il y a la méthode dite parabolique, celle dite du compromis de Cambridge, celle de l'algorithme d'ajustement et celle du système de la représentation proportionnelle dégressive. Faites votre choix. Mais tout cela, c'était compté sans la perverse ingéniosité de quelques-uns qui tentent d'établir un lien arithmétique entre le nombre de députés, d'une part, et les règles de pondération des votes en Conseil des ministres de l'UE.
Vraiment. vraiment aucune autre option, Quentin ?
Et si, bien sûr. Il y a celle qu'on évoque de façon croissante et qui consiste à attribuer les 73 sièges à des listes européennes transnationales par famille politique. En clair, l'électeur français disposerait de deux voix, une comme actuellement dans sa circonscription et une autre qui irait à une liste unique, la même dans tous les pays et composée de candidats venus de partout en Europe. On aurait ainsi le choix entre la liste européenne socialiste, la liste européenne de centre droit, la liste européenne verte, etc. Le tout, c'est de savoir s'il reste assez de temps pour mettre cette formule en œuvre d'ici 2019.
Mais tout est beaucoup plus simple maintenant. Avec nous, en direct, Quentin Dickinson, notre correspondant auprès des instances européennes.
Allez, on file au Canada à la rencontre, Olivier, d'un philosophe engagé.
Cet homme est vent debout contre l'évasion fiscale, celle organisée notamment par un géant pétrolier que l'on connaît bien, Total. Dans son livre « De quoi Total est la somme » aux éditions Rue de l'Échiquier, ce philosophe québécois démontre comment les sociétés supranationales agissent en toute impunité au mépris du droit des citoyens et de l'environnement. Notre correspondante Pascale Guéricola a assisté à l'une des présentations d'Alain Deneau à Québec.
Très fouillé et bien documenté, le livre « De quoi Total est la somme » décrit le fonctionnement d'une entreprise qui étend son action dans 130 pays à travers les 882 sociétés qui la composent. Devant un public suspendu à ses lèvres, l'auteur Alain Deneau souligne la façon dont la multinationale joue de ses appuis politiques pour rentabiliser ses investissements. Très présente dans l'exploitation du pétrole canadien, la multinationale a réussi par exemple à faire financer ses infrastructures pour exporter cette ressource, comme l'explique l'auteur du livre.
Le pétrole des sables bitumineux en Alberta ne vaut rien s'il n'y a pas d'oléoduc pour le transporter, parce qu'il n'y a pas de port au milieu du Canada. Donc c'est un pétrole qui, pour être valorisé, requiert des infrastructures de transport de type oléoduc. Il y a, au conseil d'administration de Total, la famille Desmarais, par ailleurs, très influente auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, laquelle a investi deux fois plus en Alberta, directement ou indirectement dans les infrastructures pétrolières, qu'au Québec. Et elle est un acteur de poids pour favoriser l'investissement et le développement dans les infrastructures nécessaires à la valorisation de ce pétrole, de telle sorte que l'exploitation des sables bitumineux devienne pertinente pour les investisseurs. Et donc, en cela, on a l'exemple même de la façon dont Total peut se comporter comme un pouvoir à l'échelle internationale, le plus souvent sous le couvert de la légalité. Ce que j'essaie de faire, c'est de comprendre aujourd'hui en quoi les multinationales s'imposent, non pas comme des entreprises engagées dans telle ou telle filière d'activité, mais comme des pouvoirs.
On sent que c'est savant, mais qu'on n'a pas besoin de comprendre.
Dans l'assistance, plusieurs découvrent avec surprise que la Caisse de dépôt, un organisme public de gestion des retraites de tous les Québécois, investit dans les oléoducs pour permettre à Total d'exporter son pétrole. C'est un paradoxe, car majoritairement, le Québec s'oppose au pétrole de l'Ouest canadien, très polluant. Du coup, cette jeune femme apprécie d'en apprendre davantage sur sa société grâce au travail de documentation d'Alain Deneau.
C'est comme des pièces de casse-tête qui se mettent en place, là, je dirais. C'est sûr que ça fait écho à des choses qu'on perçoit puis qu'on ne sait pas toujours comment expliquer dans les nouvelles, dans l'actualité. Donc, c'est effectivement, là, ça donne envie d'en connaître plus.
C'est dur pour les gens qui voient tout ce qui ne marche pas de faire voir à ceux qui ne le voient pas. Puis j'ai l'impression qu'on est assez chanceux pour avoir des gens comme lui qui sont capables de le faire, ce décortiquage-là. Plus il y a de gens qui le lisent puis qui commencent à le voir, ben on sort de la caverne progressivement tous ensemble.
Selon l'auteur, qui a aussi écrit sur les sociétés minières canadiennes et l'évasion fiscale, il est indispensable de mener à bien des recherches sur des entités ou des familles influentes, comme les Desmarais au Canada, qui préfèrent l'ombre au projecteur.
Il est très difficile de critiquer la famille Desmarais dans une université dont un des campus porte le nom des Desmarais, ou dans une école qui a, au sein de son conseil d'administration, un membre de la famille Desmarais, oui. C'est inhibant et les pères nous pardonnent mal que l'on morde la main qui prétend nous nourrir.
Le livre prend son envol depuis quelques semaines, coédité chez Éco-Société au Québec et Rue de l'Échiquier en France.
Pascale Guéricola, correspondante pour Radio France à Québec.
Et nous finirons ce soir, Olivier, en eau profonde au large du Panama.
À la découverte d'une nouvelle espèce sous-marine, la Cynalpheus pinkfloydi, Nicolas, petite cousine de la crevette pistolet, car elle est dotée, nous dit-on, d'une très grosse pince. Pince dont le claquement produit un son assourdissant, capable d'étourdir ses proies. La particularité de la Cynalpheus pinkfloydi, qui doit son nom au co-directeur du rapport sur la découverte de ce nouveau spécimen, un certain Sammy De Grave, lui-même étourdi dans sa jeunesse par le groupe britannique Pink Floyd. Shine on You Crazy Diamond du groupe Pink Floyd, qui vient donc de donner son nom à une crevette.
Oui, ben voilà, maintenant on pensera à des grosses gambas quand on écoutera Pink Floyd. Merci Olivier Poujade.